Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Pognez pas la grippe, elle est vraiment méchante. Marceau s'en vient. Après ça, c'est Alexandre Barrette. Puis nous autres, ben, on se reparle demain. Bonne soirée, les amis.
Salut!
Bye-bye.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur.
Ben, je vais y aller. Oh,
ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
Know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 en ce lundi 17 février 2025. C'est neige et poudrerie. C'est ce qu'on nous annonce pour ce soir. On parle de 2 cm annoncés. Avec le refroidissement éolien, on descend à ça jusqu'à moins 30 comme température ressentie. Donc, ce sera pas chaud pour la pompe à l'eau. Et pour ce qui est de demain, c'est de la faible neige intermittente et poudrerie par endroit avec des rafales à 50 km/h, un maximum de moins 12 degrés. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de t'accompagner pour les 60 prochaine minute. Ce soir, mon invité, Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare, bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va bien. Et vous, M. Marceau?
Ça va très bien. Est-ce que vous avez célébré la Saint-Valentin en fin de semaine? Est-ce que vous aviez une Valentine ce week-end?
Oui, j'avais une Valentine ce week-end et ça a été très agréable. Et je dirais aussi que j'ai un Valentin avec le Québec tout blanc, tout entier, parce que j'adore le mois de février pour ça. C'est un mois franc.
Oui.
Il n'y a pas de taponnage. C'est frette, c'est blanc partout. C'est magnifique, on peut pratiquer les sports d'hiver, ski alpin, ski de fond, patin. C'est ce que j'aime du mois de février. J'aime le mois de juillet en été et j'aime le mois de février en hiver parce que ce sont des mois francs. Les autres, c'est entre les deux, il pleut, nanana, de la gadoue, de la slotch, Montréal, Québec, partout. Alors, je suis en amour avec mon Québec blanc en février.
Bon,
voilà,
c'est un beau message d'amour que vous envoyez là, Maître Bellemare. Est-ce que la Saint-Valentin, pour vous, on va essayer de voir si vous êtes un romantique ou encore si vous êtes un cheap comme moi. Est-ce que la Saint-Valentin, ça dure juste une journée ou ça dure 365 jours par année?
Ben, disons que c'est pas aussi intense pendant 365 jours. Je pense que l'être humain étant quand même doté d'une certaine variante au plan de l'humeur et de toutes sortes d'autres facultés.
Ouais.
Il y a des différences, mais on essaie de garder le romantisme à la hauteur, le plus vivant possible. Mais c'est pas facile de toujours garder la même constance, n'est-ce pas?
Ben, je vous croyais pas aussi romantique, Maître Bellemare. Est-ce que vous avez fait abstraction du romantisme puis regardez un peu le hockey, le tournoi des quatre nations, la Coupe des quatre nations? Moi, je trouve ça formidable, bien honnêtement. C'est pas mal plus excitant que le match des étoiles, on va se le dire. Des gars qui jouent pour leur pays. Puis j'ai hâte de voir la finale. Si je me trompe pas, la finale, ça va être à peu près mercredi. Le Team Canada est juste incroyable. De voir, semaine dernière, de voir Sidney Crosby, qui est en compagnie de Mario Lemieux. Moi, ça m'a ramené là, des souvenirs incommensurables de cette merveille-là qui était sur la glace. T'sais. Mario Lemieux, pour moi, c'était le mien. Il y en a que c'était Wayne Gretzky. Pour moi, ma merveille à moi, c'était Mario Lemieux parce qu'il parlait le langage que moi, je pouvais comprendre quand j'étais très jeune. C'est un gars qui était capable de faire littéralement de la magie sur la glace. Il était capable de voir derrière lui alors que ben, on voit pas derrière nous techniquement. Il réalisait des pièces de jeu qui étaient juste hallucinantes. Puis de le voir en compagnie de Sid The Kid qui ne se fait pas de plus en plus jeune. Il vieillit, Sid The Kid. Il est rendu autour de 36-37 ans là, de mémoire. Je trouvais ça de toute beauté. Nate McKinnon avec Connor McDavid sur le premier trio. Maître Bellemare, ça va vite. Si le Canadien était bâti comme Team Canada, je pense qu'on en gagnerait à chaque année des Coupes Stanley.
Oui, on viendrait comme dans le bon vieux temps des Coupes Stanley à Montréal, là, c'est certain. Mais c'est sûr que ça montre aussi qu'il y a la Ligue nationale aujourd'hui, c'est bien des joueurs qui viennent d'Europe. J'étais un peu surpris de voir que Zibanejad n'était pas un produit. Je pense que c'est un Suédois, hein? En tout cas, il me semble qu'on a vu contre le Canada, c'est un Suédois. Alors, j'étais un petit peu surpris. On voit l'origine ethnique de chacun des joueurs. Alors, c'est fascinant, mais on voit quand même que la Ligue nationale, c'est devenu un gros mélange de plusieurs nationalités. Moi, je n'aurais pas haï qu'on ait peut-être 6 équipes.
Ben
Je ne sais pas pourquoi on
avec
n'a
la
pas la
Russie.
Tchécoslovaquie, par exemple, qui est un pays qui produit beaucoup de joueurs, mais écoute, il y en a 4 équipes, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Et puis, les équipes nord-américaines sont assez, à l'évidence, assez fortes, assez puissantes. Je ne sais pas comment les Européens vont s'en sortir au bout de la ligne, mais il reste que. L'équipe américaine est particulièrement impressionnante. L'équipe canadienne, ben, si tu enlèves Crosby, c'est même pas sûr qu'ils auraient réussi à gagner leur premier match, là, parce qu'à
Oh, ben je veux
un moment
dire,
donné, ça va prendre des jeunes aussi qui vont ressembler à Crosby, là. Il n'est pas éternel, le kid, hein,
ben, y a Connor
effectivement.
Bedard qui s'en vient, qui est un tout autre joueur. Mais je veux revenir sur le fait qu'effectivement, là, actuellement, c'est le tournoi des quatre nations. Mais à un moment donné, ça va se finir, ce maudit conflit-là entre la Russie et l'Ukraine. Puis les joueurs russes vont pouvoir revenir dans ce type de tournoi-là. Puis ça va être tout à l'avantage des amateurs de hockey. Moi, la confrontation 3 contre 3 qu'on a vécu là, pendant 10 minutes avec Team Canada contre la Suède. J'ai vraiment aimé cette confrontation-là. Je trouve qu'on devrait faire ça plutôt que la fusillade au hockey. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les fusillades, là, mais moi, un genre de 3 contre 3 pendant 10 minutes, puis on vit avec le résultat final. J'étais très, très, très à l'aise avec ça. Puis j'étais sur le bout de mon siège quand je regardais ce match-là. Puis on a du bon hockey. Fait que profitons-en. Le Canadien ne perd pas pendant ce temps-là, Maître Bellemare. Fait qu'on est heureux.
Oui, c'est ça. Au moins, on est heureux. Puis on voit quand même des joueurs du Canadien comme Patrick Laine qui font leur possible. Puis on voit quand même. On a quelques joueurs de l'équipe de Montréal dans le tournoi. Alors, c'est quand même ça. Mais effectivement, le Canadien nous a donné beaucoup de joie en sortant des fêtes. Moi, j'étais là au stade des Panthers, je pense le 28 ou le 29 décembre, quand Dobesch a goalé puis qu'il a blanchi les Panthers 3 ou 4 à 0. Et je me suis dit, mon Dieu, on a trouvé notre gardien miracle. Il était convaincu qu'on allait se diriger tranquillement, pas vite, vers les séries. Mais évidemment, ça a été de courte durée. Mais ça a duré peut-être une dizaine de matchs. Et après ça, on est revenu un peu avec le Canadien qu'on avait connu au début de la saison. C'est un peu triste. On ne sait pas trop comment on va s'en sortir de tout ça parce que la reconstruction, c'est un thème intéressant, mais là, je commence à trouver que les matériaux rentrent au compte-gouttes là, pour notre reconstruction à Montréal. Ça prend du temps. Puis on n'a pas été habitué d'attendre autant d'années avant d'avoir un certain succès. Moi, je suis personnellement, là, je commence cette année, là.
Bon, le mot d'ordre, c'est patience. Là, on est gâtés, là, rapidement avant de passer à notre sujet politique de ce soir. Lane Hutson, c'est tout un joueur de hockey. Il y
Oui.
a Demidov qui s'en vient l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, qui va être un joueur exceptionnel aussi. Il y a de bons joueurs dans l'écurie du Canadien qui vont faire la Grande Ligue des prochaines années. Fait que souhaitons que ça s'améliore, ce hockey-là, à Montréal, pour les fans des Canadiens de Montréal, bien entendu. Maître Bellemare, là, on est dans des moments où c'est assez particulier, là, la politique. Aux États-Unis, je disais tout à l'heure qu'on était sur le bout de nos sièges. Aux États-Unis, le Grand Orange en fait des belles. Il stresse tous les politiciens au Canada, que ce soit François Legault ou encore Justin Trudeau. Tout le monde est un peu stressé de ces décisions-là, parfois qui semblent venir de nulle part. Délégations canadiennes qui ont été rencontrées des délégués aux États-Unis la semaine dernière. François Legault qui a tenté de nous convaincre qu'il négociait pour le Québec et c'était un fin négociateur. Sauf que de l'autre côté, il y a eu des images vidéo qui nous sont parvenues au Québec où on se rend compte que François Legault, son niveau d'anglais est très, comment dire pour être poli, très médiocre. On s'est dit que c'était pas lui qui allait prendre la parole, j'imagine, devant les politiciens américains pour tenter de les convaincre d'enlever que Donald Trump enlève ses fameux tarifs qu'il veut nous imposer. La politique, ça, c'est quelque chose d'extrêmement gros, là, parce que ça dirige un peu notre vie. Il y en a qui s'intéressent à la politique, entre autres pour ça. C'est une très bonne chose de vous intéresser à la politique. Mais là, on est dans un ère où les gens décident s'ils s'en vont, s'ils restent en politique, ou d'autres qui décident, tout comme vous, vous avez fait ce choix-là il y a de ça quelques années, de vous lancer en politique pour essayer de changer les choses. Pourquoi? C'est quoi les bonnes raisons de se lancer en politique, Maître Bellemare? À quoi vous avez pensé à ce moment-là quand vous vous êtes lancé en politique? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais là pour un mandat de 4 ans, je vais là pour changer les choses, je vais là par curiosité? C'était quoi votre mindset au départ? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez été désabusé de la politique?
Bien, il y a toutes sortes de choix, hein. Il y a des gens qui s'en vont en politique parce qu'ils trouvent le temps long puis ils veulent relancer leur carrière. Je me souviens, en 2003, moi, dans l'équipe de Charest, il y avait des candidats qui étaient là, un dentiste qui avait vendu son cabinet, l'autre qui avait démissionné de son emploi, l'autre qui était retraité. Il y en a qui venaient pour changer le monde, j'en étais. Moi, j'étais là pour changer le Québec. On m'avait demandé de revoir tous les régimes d'indemnisation du Québec. M. Charest m'avait donné le mandat d'écrire le programme du parti en matière de droit social, ce que j'ai fait. Alors, il y en a de toutes les sortes. Hein. Il y en a qui sont déjà là au moment où le gouvernement est élu puis qui attendent dans la réserve de la République d'occuper un siège important dans un gouvernement fraîchement élu. Il y en a d'autres qui ne seront jamais au Conseil des ministres puis qui vont ronger leurs freins comme députés, comme simples députés pendant plusieurs années. Ça dépend, mais écoute, normalement, quand tu t'en vas en politique, c'est parce que tu as une idée et tu veux faire avancer, faire changer les lois, parce que le seul endroit où les lois vont changer, c'est bien sûr à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Alors, si tu n'es pas élu, tu peux toujours jouer d'influence auprès des députés et des ministres, mais c'est jamais comme si tu étais assis autour de la table au Conseil des ministres.
On salue Denis Coderre quand vous avez dit qu'il y en a qui veulent aller en politique pour se changer les idées parce qu'ils trouvent le temps long. D'après moi, dans les prochaines années, il va trouver le temps long aussi, très loin de la politique. Il a annoncé qu'il se retirait. C'est drôle, hein, parce qu'il s'est fait comme retirer de la course, puis après ça, il a annoncé qu'il se retirait de la politique. Dans votre cas, à vous, la politique, c'était une perte d'argent. Vous êtes un éminent avocat, ça fait longtemps que vous roulez votre bosse comme avocat, vous avez une notoriété. Est-ce que vous aviez pensé à ça au départ?
Je savais même pas combien gagnait un député. J'ai été élu en avril 2003 avec l'équipe de Jean Charest.
Ouais.
J'étais pas un libéral d'habitude, bien au contraire. J'appartenais plutôt à la filière péquiste nationaliste et Charest était bien content de me recruter parce qu'il disait, bon, voici, on va même chercher des souverainistes ou des nationalistes québécois dans notre équipe. Alors, ouais. C'est toujours plaisant pour un chef de pouvoir montrer qu'il amène un certain ralliement de différentes options. Alors, j'avais accepté d'aller avec M. Charest pour l'élection. Et c'est sûr que moi, j'étais convaincu qu'on allait changer le tout. Et même le programme libéral de 2003, si tu te souviens bien, je pense qu'il y avait 5 milliards de baisses d'impôts qui étaient prévues. La réingénierie de l'État, on dénonçait l'État obèse et tentaculaire. On allait couper dans la fonction publique, ne pas renouveler les gens qui quittaient la fonction publique. Alors, c'était un programme politique extrêmement ambitieux. La réforme du système électoral, l'assurance automobile, la fiscalité, l'économie en général. Alors, on avait, c'était le programme électoral peut-être le plus à droite depuis la Confédération canadienne. Si tu regardes le programme libéral de Jean Charest en 2003, c'était très à droite, mais comme beaucoup de monde, une fois élu, plutôt que de diriger à droite que de diriger à gauche. Alors, François Legault a fait la même chose avec la CAQ. Bourassa faisait la même chose dans les années 70. Alors, c'est l'histoire du Québec. C'est des gouvernements qui sont élus au centre ou à droite, mais qui dirigent à gauche, constamment avec des déficits qui s'accumulent. La question salariale, moi, je ne savais pas combien gagnait un député. Je pense qu'à l'époque, c'était un ministre gagnait 150 000 en 2003 et un député gagnait à peu près 90-100 000 $. C'était ça à l'époque. Et je me souviens qu'un député fédéral à la Chambre des communes gagnait autant qu'un ministre à Québec. Alors, oui, il y a des gens, des fois, qui sont élus et qui vont avoir une amélioration. Ils vont connaître une amélioration de leurs revenus. Des gens, quelqu'un qui gagne 60 000 $ par année puis qui est élu député, forcément, qui va avoir un meilleur salaire.
Exact.
Mais quelqu'un qui gagne 200 000 $, qui s'en va en politique, c'est sûr que ce n'est pas un bon parti au plan financier. Mais ce n'est pas ça, souvent, qui va animer. C'est l'idée que c'est un nouveau gouvernement, qu'il va y avoir des changements importants puis qu'il va y avoir une volonté politique d'améliorer les choses. Mais une fois rendu au pouvoir, moi, je me suis aperçu que pendant l'élection, pendant la campagne électorale, il y a beaucoup de lobbies qui se taisent. Les syndicats qui ne parlent pas trop, les assureurs qui ne parlent pas trop, les groupes ethniques, linguistiques qui ne parlent pas trop. Puis une fois l'élection arrivée, ils débarquent dans le bureau du premier ministre puis là, ils disent « Nous autres, on veut ci puis on veut ça. » Puis c'est là que les vraies décisions se prennent et c'est là que les promesses électorales sont souvent abandonnées.
Les grosses déceptions, c'est quand même une perte de salaire là, quand un homme d'affaires ou une femme d'affaires s'en va en politique. C'est des gens qui sont habitués à un rythme de vie qui est un peu plus grand, un 200, 300, même 500 000 par année. T'sais, vous dites, j'ai même pas pensé à ça, je savais pas comment ça gagnait un député à l'époque. Puis après ça, ils vous ont nommé une ministre, donc le salaire était autour de 160 000. Mais n'en demeure pas moins que quelqu'un qui fait plus d'argent que ça doit y penser. Là. Pour les quatre prochaines années, je m'embarque dans un processus où je vais faire beaucoup moins d'argent. C'est une grosse décision quand même.
Oui, c'est une grosse décision. Puis il faut que tu considères aussi que si tu es en affaires puis que tu as une compagnie ou un bureau d'avocat ou de comptable, je me souviens Yves Séguin qui était fiscaliste à l'époque, qui avait été nommé aux finances, par exemple. Alors, c'est sûr que si tu quittes, tu t'en vas en politique. Quand tu quittes la politique ou que tu décides de ne pas renouveler ton mandat ou de démissionner ou que tu es battu dans une éventuelle élection, puis que tu quittes l'Assemblée nationale, bien à ce moment-là, c'est pas demain matin que les clients vont revenir, là. Alors, si tu as une clientèle comme moi, un bureau d'avocat, c'est sûr que quand j'ai quitté, il y a des gens aussi qui ont cessé de faire affaire avec Belmore Avocat comme bureau d'avocat. Et ils sont allés ailleurs. Et quand tu reviens dans la pratique privée après, comme avocat, comme moi, bien, les gens pensent que tu es encore en politique. Moi, je me souviens que 3-4 ans après que je suis revenu au bureau, il y a des gens qui me disaient « Je pensais que vous étiez encore au Parlement. » Les gens ne suivent pas l'actualité tant que ça. Alors, ça peut prendre un certain temps avant que tu puisses reconstruire ton affaire, ton bureau, ta pratique, ton entreprise. Et il y a des gens aussi qui ne pardonneront pas d'être allé en politique. Il y a des gens qui vont dire c'est un maudit libéral ou c'est un maudit péquiste, puis il est allé dans un parti que j'aime pas, puis je ne veux plus rien savoir de lui parce que tu as pris position politiquement et tu as endossé le programme d'un parti politique et d'un chef. Ça aussi, ça compte. Alors, quand on s'en va en politique, moi, je me souviens, à un moment donné, mon fils, qui était très jeune à l'époque, mon garçon le plus vieux m'avait dit « Pourquoi tu t'en vas en politique, papa? Tout le monde t'aime. » Il avait compris ça, lui.
Ben
parce
oui.
que lui, les échos qu'il y en avait, c'est que papa s'en va en politique, les échos qu'il y en avait à l'école, il y a des jeunes qui disaient « Ton père s'en va avec Charest, c'est quoi cette affaire-là? Puis il n'y a pas d'affaire là, puis c'est pas le bon parti, puis il ne devrait pas aller là. » Dès que tu prends position, suite, il y a à peu près la moitié des gens qui sont contre puis la moitié des gens qui sont pour. Alors, tu as des gens, tu as des amis qui ne te parlent plus, il y a des gens qui ne veulent plus te faire confiance, puis tu as des nouveaux amis aussi, des gens qui ne t'aimaient pas avant puis qui t'aiment aujourd'hui simplement parce que tu es en position de pouvoir, puis peut-être tu vas leur procurer un certain bénéfice, ne serait-ce qu'en s'acoquinant avec toi pour montrer qu'ils sont amis avec le ministre ou amis avec le député. Alors, c'est toujours bon dans un groupe d'amis de dire « moi, je le connais, c'est mon ami », tu sais.
Ouais.
Alors, il y a des nouveaux amis, puis il y a des anciens amis. Puis du côté des médias, moi, j'ai toujours été assez médiatisé. Je faisais beaucoup de médias à l'époque, beaucoup de radio, beaucoup de conférences de presse, revendiquer des changements aux lois, etc. Et beaucoup de journalistes me disaient « Hey, tu devrais aller en politique, puis tu pourras changer les choses. » Puis une fois que j'ai été en politique, ces journalistes-là qui étaient des alliés avant n'étaient plus des alliés parce que là, ils critiquaient le député, le ministre. Alors ça aussi, il faut jouer avec ça et c'est pas toujours plaisant de vivre cette situation-là. Mais là, ce qui s'ajoute aujourd'hui, Yannick, là, aujourd'hui, 2025, là, c'est les réseaux sociaux. Dans mon temps, ça n'existait pas. Ça fait quand même 22 ans, moi, que j'ai été en politique. Mais aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, c'est vraiment une plaie, là, à mon avis. Et puis, le harcèlement, les commentaires négatifs, n'importe qui met des commentaires, les fake news, bon. Ça, il faut composer avec ça. Puis, je pense que c'est un fardeau considérable sur les épaules des politiciens aujourd'hui, puis des gens qui font un travail public. Ça peut dissuader bien des gens d'aller en politique aujourd'hui. Je pense que la principale raison pour laquelle plusieurs personnes n'y vont pas, c'est justement pour éviter de se faire lyncher publiquement sur les réseaux sociaux.
Est-ce que vous vous êtes senti en prison une fois qu'on décide de se lancer en politique, qu'on gagne nos élections, puis après ça, on arrive dans la grosse machine, puis en plus, vous avez été élu ministre. Est-ce que vous vous êtes senti en prison à un moment donné en disant « Oh boy, OK, là, moi, je peux pas sortir de là. Au départ, je voulais faire quelque chose, puis j'imagine que vous allez nous le dire dans les prochaines secondes. Au départ, vous vouliez faire quelque chose, après ça, on vous dit non. Là, vous dites « Oh boy, là, je suis encabané ici pendant 4 ans. » Ça doit être terrorisant, ça, quand on va en politique pour changer les choses. Puis là, ben, le grand boss en haut dit « Non, 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 la porte, elle s'ouvre pas. Tu n'as pas le droit d'aller te promener dans la cour. Tu restes en dedans, à l'intérieur des murs. » Ça doit être terrorisant, ça.
Ben, tu défends un programme électoral. On appelle ça la solidarité ministérielle. Pour les ministres, ils doivent être solidaires du gouvernement, du premier ministre. Alors, il y a des débats qui se font autour de la table à huis clos au Conseil des ministres, mais au bout de la ligne, tu peux mettre ton avis, mais au bout de la ligne, tu dois te rallier à la position du gouvernement. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et quand tu as été allé en politique pour défendre un objectif, moi, j'avais défendu l'idée de modifier le régime d'assurance automobile, de toucher toutes les lois sociales, la CNESST, les tribunaux administratifs. Et tranquillement, pas vite, pendant l'année qui a suivi, ben, j'ai compris que le gouvernement n'allait faire aucune des réformes qu'il avait promises et qui portaient mon nom. Et c'est pour ça qu'après un an, je me suis dit, ben là, je suis convaincu que jamais ces réformes-là ne verront le jour. Alors, j'ai décidé de quitter parce que les raisons pour lesquelles je m'étais engagé en politique, ça comptait plus. Le gouvernement l'avait promis, puis avait décidé de ne pas réaliser ces engagements-là. C'est un peu comme si toi, tu t'en vas en politique demain matin, puis tu dis, moi, je vais faire une réforme de tout de la commission d'accès à l'information. Parce que moi, je suis journaliste, je suis chroniqueur à radio, je connais ça, l'information. Je m'en vais en politique, je donne mon nom à un gouvernement, à un parti politique, qui se vantent de m'avoir recruté comme candidat vedette. Tu t'en vas là, tu veux revoir toute la politique d'accès à l'information du gouvernement. Bon, donner accès à des livres, à des bilans, à des documents secrets, etc. Tu veux élargir ça, puis donner aux citoyens plus d'accès à l'activité gouvernementale. Puis tu portes ce nom-là, pendant 33 jours, tu fais campagne, puis tu fais des débats, puis etc. Puis l'idée est excellente, puis les gens votent pour toi, puis pour ton gouvernement, pour ça. Une fois rendu là, ton premier ministre te dit, bon, on le fera pas. Tu fais quoi, là? Parce que cette réforme-là porte ton nom. Tu sais, tu l'as dans le front, là. C'est comme identifié à ta personne. Alors, là, tu as un choix entre continuer de défendre des idées d'un gouvernement alors qu'en échange, il n'a pas accepté de réaliser les engagements qui t'ont amené dans ce gouvernement-là.
Je vais vous dire
Ou
quelque chose,
bien
Maître
pour tourner
Bellemare. Je vais
vers
vous dire
d'autres
quelque
choses.
chose, Maître Bellemare. La Saint-Valentin, c'était vendredi. Fait que si je vous dis ça ce soir, j'espère que ce ne sera pas trop mal perçu. La raison pour laquelle je vous aime, Maître Bellemare, c'est parce que vous avez les valeurs fondamentales à la bonne place, c'est bien ancré en vous. Puis quand vous avez vu que Jean Charest ne voulait pas mettre en place ce que vous vouliez mettre en place, puis que vous aviez promis à vos électeurs, vous vous êtes poussé, puis vous avez dit bye, ciao, bye. Ben moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprécier encore plus Maître Marc Bellemare. C'est la raison pour laquelle vous et moi, on fait de la radio depuis des années et des années. Vous avez des belles valeurs fondamentales, puis je pense que même les auditeurs savent ça, là, depuis qu'ils vous entendent à la radio. C'est bien ancré en vous, puis ce que vous avez fait là, c'était gros. Il y en a qui restent à l'intérieur de la machine, Maître Bellemare. T'sais. On le sait qu'il y a des politiciens et des politiciennes au Québec, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, qui ne réussissent pas à faire en politique ce qu'ils aimeraient faire, qui se font dire ben tu veux ça, mais ce ne sera pas ça. Puis ces gens-là restent à l'intérieur de la machine juste par confort ou juste pour
Oui.
l'image ou juste parce qu'ils ont amélioré leur situation, gagnaient 40, 50 000 par année, là, se ramassent avec une job à maintenant député, là, député provincial, c'est autour de 160 000 $, là, si vous êtes député provincial, 130 000 $, pardon. Puis là, ministre, ben là, il s'ajoute un montant supplémentaire. Mais il y en a plein qui restent à l'intérieur de la machine, Maître Bellemare. par confort, parce que l'image d'être un député, c'est quelque chose d'incroyable. Mais de se faire dire non quand vous faites une promesse à vos électeurs, ça doit être la pire des affaires, surtout quand au départ, M. Bellemare, on vous avait dit oui. Tu vas pouvoir l'enlever, le « no fault », Marc. Tu vas pouvoir l'enlever, le « no fault », Marc.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui restent par opportunisme aussi, puis qui ont... Des fois, il y a une dépendance financière aussi. Je me souviens, je parlais tantôt d'un député qui avait à l'époque, qui était dentiste en 2003, et qui avait, c'est Pierre Corbeil, qui est devenu par la suite maire de Rouen, je pense. Pierre avait vendu son bureau de dentiste, puis il était député. Alors, il y avait comme une dépendance parce que s'il démissionnait ou qu'il n'était pas renouvelé ou qu'il ne voulait pas se représenter, à ce moment-là, il faisait quoi? Là? Il avait vendu son bureau. Moi, j'avais encore mon bureau d'avocat. J'avais gardé ça parce que je me disais, je m'en vais en politique pour 4 ans. Je ne suis pas un politicien de carrière. Je n'avais pas l'intention de passer ma vie à allonger les murs du Parlement. J'y allais pour faire des réformes dans un gouvernement qui était relativement révolutionnaire. Je te le dis, là, le programme de Jean-Charest de 2003... Les baisses d'impôts considérables, la réingénierie de l'État, l'État obèse et tentaculaire auquel on allait s'attaquer, il y avait quand même des réformes importantes. Insérer le droit au logement dans la Charte des droits, afficher les organismes génétiquement modifiés, la réforme du système électoral, l'ordre des enseignants, on en a parlé il n'y a pas longtemps, l'ordre des enseignants, la grosse affaire, les libéraux promettent ça. Jean Charest le promet en 2003, j'ai fait des débats là-dessus. Alors c'était une véritable révolution.
Ouais.
Puis le gouvernement à Charest a accouché d'une souris. Alors, écoute, chacun est là pour des raisons particulières. Il y en a qui n'avaient pas de plan aussi. Je me souviens, quand j'avais démissionné, Philippe Couillard m'avait dit, « Toi, le problème, Marc, là, c'est que tu avais un plan quand tu es venu en politique. » J'ai dit, « Puis toi, Philippe, tu n'avais pas de plan. » Il dit, « Non, du moins, je m'en allais là pour améliorer le Québec, mais je n'avais pas un plan précis. » Mais j'ai dit, tous les députés devraient avoir un plan.
Ouais.
Toute personne qui se présente en politique devrait avoir un objectif particulier. Moi, j'y vais pour les familles. Moi, j'y vais pour la criminalité. Moi, j'y vais pour les itinérants. Il faudrait que tu aies un plan. Il faudrait que tu te dises, moi, je m'en vais là dans tel but, dans le but d'obtenir tel résultat. Parce que sinon, ah non, il dit, il faut y aller pour servir. J'ai dit, servir, là, c'est un mot creux, ça. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde veut servir, mais ce n'est pas un plan. Moi, j'ai un plan. Je suis allé pour un plan. Le plan ne se réalise pas, alors je ne vois pas pour quelle raison je resterai là. Puis c'est une question d'honnêteté par rapport aux gens qui ont voté pour toi aussi.
Exactement. J'aime entendre ça. J'aime savoir qu'il y a encore des gens comme vous dans ce beau monde, Maître Bellemare. On va faire une courte pause. Après la pause, on va parler de dossiers d'actualité. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Marc Bellemare. Comme à chaque lundi, on va être avec Marc Bellemare. C'est l'ex-ministre de la Justice. C'est l'avocat qui s'occupe des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNESST. Donc, si vous avez des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNESST, vous pouvez contacter Maître Bellemare sans aucun problème chez bellemareavocat.ca. Donc, on parle de dossiers d'actualité tout de suite après la pause. Comme disait l'autre, touchez pas à ce qu'on
a. Marceau, le soir. Rage against le matin.
Tu veux commencer ça où? Tu sais pourquoi je suis ici ce matin? Ben c'est un petit peu précipité parce que j'ai eu la réflexion avec mon collègue Pierre-Luc Lachance, oui, dans les dernières semaines et derniers mois, de ne pas me représenter aux élections municipales de 2025 avec lui. On en discutait, puis là, ben avec les circonstances qui appartiennent à Pierre-Luc, ben
qu'est-ce que t'aimerais, en terminant, tu voudrais ajouter à cette annonce-là?
Merci à mon père. Un mentor, Roger Barbeau. Merci à la population qui m'a appuyé. Puis ma famille.
Ouais.
Un gros merci.
Steve, félicitations. Puis bravo pour cette belle carrière jusqu'ici.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça. Le 19 février, le patron Charles Beau vous invite à la 18e édition de sa soirée philanthropique annuelle. Faites la différence! Au programme, apéro et souper gastronomique dans une ambiance raffinée, chaleureuse, accompagnée d'une sélection de vins d'importation privée. Votre présence est essentielle au maintien des programmes de sport, de loisirs et d'entraide pour la communauté. Inscrivez le 19 février à votre calendrier et invitez amis, famille et collègues à se joindre à la cause. Pour plus de détails et pour réserver vos billets ou encore pour faire un don, visitez le patroncharlesbeau.net.
À Expo Habitat Québec, partez à la rencontre de l'inspiration et de l'expertise. Ça s'en vient du 20 au 23 février à Expo Cité.
Lévis Subaru vous offre le VUS électrique parfait pour l'hiver, la Subaru Solterra. Obtenez jusqu'à 16 000 $ de rabais en location 48 mois à partir de seulement 120 $ plus taxes par semaine. Faites vite, les quantités sont limitées. Visitez lévisubaru.com.
C'est février sans alcool aux Trois Brasseurs. Relevez le défi avec nos savoureuses pierres blondes, sur à la framboise et IPA sans alcool. Pour chaque canette sans alcool ou Coca-Cola vendue, 1 $ sera remis à la fondation de Sober Lab. En février, faites un geste pour vous et pour une bonne cause aux Trois Brasseurs.
Vous pensez à changer d'appartement? Vous payez trop cher et vous manquez de service? Logibourg a le logement parfait pour vous. Des logements au meilleur rapport qualité-prix, situés dans des secteurs de choix et surtout un service à la clientèle à la hauteur. Trouvez le logement parfait au logibourg.com.
Il y a de l'action au village nordique du port de Québec. Le site vous réserve une foule d'activités et d'animations, autant pour les petits que pour les plus grands. Tournoi de pêche présenté par Sail, animation ambulante, barbecue Québec, party de mascotte, cabane à sucre et plus encore. Tous les dimanches, venez prendre une photo avec Louise, notre mascotte. Service de breuvage chaud et des churros disponibles sur le site. Pour consulter la programmation complète et réservée, visitez notre site web villagenordiqueavecunca.portquebec.ca.
Envie d'un véhicule électrique? Profitez de 90 jours sans paiement sur nos Equinox EV, Blazer EV et Hummer EV. Plutôt essence? Bénéficiez d'un taux aussi bas que 0% sur nos Silverado et Sierra 1500. Rendez-vous chez Marlin Chevrolet Buick GMC, 2145 rue Franck-Carrel.
Ton employé t'écrit toujours 40 heures, t'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com.
Hey, cheers! Au nouveau proprio!
Merci. Ouais, c'est à nous, ça. Ouais, c'est tout à nous, ça.
Chez Alpha, on comprend que le stress de protéger votre maison peut s'inviter dans vos festivités. Alpha Assurance, assurément pour vous.
Allô? Je viens d'avoir un accrochage sur l'autoroute. Ma voiture est brisée. Je fais quoi, là?
Chez nous, on comprend les moments comme ceux-là. Pour votre assurance auto, appelez-nous. On va prendre le temps de bien vous aider. Alpha Assurance. Assurément pour vous.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Vivre à quelques pas des plaines d'Abraham, du musée et de la rue Cartier. Avec Le Wattier, tout est possible. Du studio à la maison de ville, on a ce qu'il vous faut. De plus, profitez d'un espace lounge, d'une terrasse et d'un stationnement intérieur. Visitez lewattier.com.
Là, je suis dans mon ID4, puis si t'en veux un, toi aussi, mais c'est maintenant ou jamais, parce qu'il y a une offre pas pire jusqu'à la fin du mois, puis c'est pas moi qui va te le dire, c'est lui.
Jusqu'au 28 février, obtenez 0% de financement jusqu'à 60 mois sur l'ID4 2024 100% électrique. De plus, économisez jusqu'à 8000 $ grâce au boni en argent Volkswagen. Sur approbation de crédit, détail chez votre concessionnaire Volkswagen. C'était-tu correct?
Ben oui.
Peux-tu me ramener chez nous?
Ouais, non, c'est ça. C'est que je passe vraiment pas par là.
Tu sais pas où j'habite?
Ben non, mais moi j'habite plus dans le nord. Là.
Ben oui, moi aussi.
Tu dis nord, je dis nord, sud, là, le nord, l'autre bord.
Avec le service Internet illimité de Rogers, maintenant disponible au Québec, rien n'est à votre épreuve. Comme donner accès au Wi-Fi à vos enfants et tous leurs amis, ou les trouver devant un jeu vidéo et non dehors dans la cour. Ce que vous voulez, c'est une connexion fiable et rapide en tout temps. Comme l'Internet de Rogers, maintenant disponible au Québec, à partir de $44.95 par mois pour un temps limité. Visitez rogers.com ou rendez-vous en magasin pour les détails. Rogers, là on jase.
Futur étudiant, ton avenir commence ici. Jusqu'au 1er mars, fais ta demande d'admission au premier tour dans l'un des 15 programmes offerts au cégep de la Pocatière. Au campus de Montmagny, découvre la nouvelle formation en acupuncture ou en production scénique, régie et technique scénique. Au campus de la Pocatière, découvre les programmes audioprothèse et technologie du génie physique. Opte pour une formation de qualité, des enseignants passionnés et une vie étudiante vibrante. Consulte dès maintenant les détails des programmes, d'inscription et des bourses offertes sur cégeplapocatière.qc.ca.
L'atelier, c'est un incontournable sur Grande Allée pour manger, boire et célébrer. Envie d'une soirée réussie, ambiance festive décontractée, parfait pour un souper entre amis, un événement de groupe ou un tête-à-tête. Savourez nos tartares, burgers et plateaux à partager, accompagnés de cocktails signature créés par notre chef mixologue. À chaque soir, laissez-vous porter par la musique live. Manger, boire, célébrer, une seule destination, l'atelier sur Grande Allée. Réservez dès maintenant sur bistrolatelier.com. Chevrolet.com.
Moins de 75 par semaine pour un véhicule neuf garanti 10 ans ou 160 000 km, c'est possible. Le Mirage ES 2024 est en financement sur 84 mois pour seulement 74,99 par semaine, 0 d'acompte. Tout ça seulement chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Chaque lundi, on a le plaisir de passer la soirée avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca, l'ex-ministre de la Justice. Maître Bellemare, comme premier dossier ce soir, c'est un dossier qui était assez intéressant à lire de Michael Nguyen dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Michael Nguyen parle de Sophie Durocher, la chroniqueuse Sophie Durocher du 99.5 Cube, qui se fait régulièrement menacer par des gens sur Internet. Il y a plein de personnalités là, qui se font menacer par des gens sur Internet. Moi, ce qui me rassure, c'est que de plus en plus, les gens portent plainte contre ces individus-là. Et j'ai toujours espoir que ces individus-là puissent avoir une sentence qui puisse faire réfléchir les autres qui seraient portés à faire le même geste, c'est-à-dire soit menacer de mort ou soit menacer l'intégrité de certains individus. Puis très souvent, Maître Bellemare, on en parle régulièrement, vous et moi, là, la justice nous déçoit. Et dans ce cas-ci, on parle d'un gars qui avait menacé de frapper Sophie Durocher. Et est-ce qu'il a obtenu son absolution inconditionnelle ou il va avoir un casier judiciaire? À vous de me le dire, Maître Bellemare, mais si j'en crois la justice, j'ai l'impression qu'on a encore une fois passé dans le beurre.
Oui, effectivement. Écoute, la Sophie Durocher, bien connue, chroniqueuse, quand même respectée. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord toujours avec ce que Sophie Durocher dit, mais la question, ce n'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on peut faire preuve de harcèlement criminel et de menace de mort face à une personne qui émet des opinions publiques comme Sophie Durocher? Alors, l'histoire est la suivante. Un individu du nom de Martin Larouche, en août 2022, publie sur Twitter, il y a 53 ans, le monsieur, il n'y a pas d'antécédent criminel. Il publie un Twitter et je cite, « La Durocher mérite d'être giflée si fort qu'elle tombe dans le coma pendant une couple d'années. » Alors, croyez-le ou non, ce message-là a été distribué sur Twitter en août 2022 parce que Mme Durocher était favorable au vaccin, semble-t-il. M. Larouche ne l'est pas. Alors, lui, il décide de publier ce message-là et il est accusé devant la Cour de juridiction criminelle de menaces de mort et de harcèlement criminel. C'est quand même des infractions graves, là. Menaces de mort et harcèlement criminel. Mais ces infractions-là ne sont pas indiquées dans le code criminel avec une peine minimale. Alors, M. Larouche a tenté d'être acquitté de ces accusations-là en plaidant que c'était une boutade, que c'était une métaphore, que c'est pas ça qu'il voulait dire, puis qu'il avait utilisé des mots sous l'impulsion, puis que c'était ci, puis que c'était ça. Il n'a pas été cru et il a été reconnu coupable de ces deux infractions-là. Alors, quand vient le temps d'imposer la peine, parce que là, on peut s'imaginer ce que ça représente pour Mme Durocher, là. Une plainte à police, des interrogatoires, répondre à ci, répondre à ça, comment vous vous êtes senti, comment vous avez vécu ça, les menaces, avez-vous eu peur, etc. Bon, alors c'est tout un processus. On parle de 2022, ça fait quand même 3 ans. Alors, la procureure de la Couronne réclame au niveau de la peine, parce qu'après qu'il soit condamné, il y a une peine qui est prononcée, un sursis de peine, une sentence suspendue, une probation de 3 ans et 150 heures de travaux communautaires. Alors, ça veut dire un casier judiciaire et ça veut dire qu'il y a une suite administrative criminelle aux accusations pour lesquelles il a été condamné. Mais le juge a plutôt penché du côté de la suggestion de la défense en accordant une absolution conditionnelle à l'accusé. Alors, c'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'en pratique, il n'y aura pas de casier judiciaire. Moi, je pense que ce jugement-là, qui a été prononcé le 13 février, donc jeudi dernier, devrait être porté en appel par le DPCP. C'est quoi le DPCP? C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est l'institution au Québec qui décide de porter ou non des accusations, de rédiger les chefs d'accusation, de faire la preuve de la culpabilité et d'obtenir une peine correcte. Et si la peine n'est pas correcte, le DPCP peut demander à la Cour d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal du Québec, de reviser un jugement rendu comme celui-ci. Et je souhaite que le DPCP fasse sa job, c'est-à-dire représenter l'intérêt public et porte l'affaire devant la Cour d'appel, parce qu'il me semble que ce dossier-là mérite que la Cour d'appel se penche sur la question. À savoir, est-ce qu'il est correct qu'un individu s'en tire sans casier judiciaire après avoir été reconnu coupable de deux infractions graves, menaces de mort et harcèlement criminel? Écoute, de dire dans un message sur Twitter qu'on souhaite qu'une animatrice de radio mérite d'être giflée si fort qu'elle tombe dans le coma pendant une couple d'années, je ne sais pas si c'est une idée de ce que ça représente, là, mais c'est être dans le coma pendant une couple d'années, ça représente un traumatisme crânien sévère, ouais. Une lésion crânio-cérébrale sévère. Le coma, moi, j'en ai des clients qui sont dans le coma ici, là, qui ont eu des accidents, là, puis c'est pas une joke, là, c'est quand même une menace extrêmement grave. Et quiconque va proférer ce type de menace-là est reconnu et criminellement responsable, à mon avis, devra avoir un casier judiciaire. Et je pense que si la Couronne, le DPCP, c'est finalement ce qu'on appelait autrefois la Couronne, si la Couronne est vraiment sérieuse dans les demandes qu'elle avait faites, puis c'était pas quelque chose de très grave que la Couronne demandait. On s'entend, là, un sursis de peine, une sentence suspendue, une probation de 3 ans et 150 heures de travaux communautaires pour avoir proféré des menaces de mort et du harcèlement criminel. C'est quand même pas exagéré, c'est vraiment le minimum, mais ils n'ont même pas eu le minimum.
Est-ce qu'on peut encore se poser la question aujourd'hui, est-ce que justice a été rendue? C'est bien humblement, Maître Bellemare, quand j'étais dans la jeune vingtaine, à chaque fois qu'il y avait une cause qui était rendue publique, on nous donnait le résultat final, ce que le juge avait décidé, le verdict du juge, je me posais toujours la question, est-ce que justice a été rendue? Puis est-ce que la victime a obtenu justice? Puis est-ce que la décision du juge va faire en sorte que d'autres personnes qui pourrait faire la même affaire serait porté à dire « Attends un peu, moi, y penser deux fois avant de le faire. » Parce que il me semble que le prix est lourd à payer si tu fais une niaiserie de ce genre-là. Est-ce que c'est encore légitime de se demander si justice a été rendue dans cette justice canadienne-là qui semble être un peu plus lousse du côté de la province de Québec?
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ici, au Québec, on le voit dans les cas de... Les peines qui sont prononcées, notamment pour l'alcool au volant, la violence conjugale. En Ontario puis en Alberta, on a des chiffres qui nous montrent que les peines sont plus sévères qu'au Québec. Ça, c'est une question culturelle, bien évidemment, mais dans un cas comme celui-là, Internet, Twitter, X, c'est quand même des moyens de diffuser des menaces de mort, du harcèlement criminel, et avec l'avènement d'Internet, évidemment, il y a des gens qui se manifestent de façon très agressive, et il faut que les tribunaux en soient conscients, et c'est la raison pour laquelle, je pense, dans l'affaire Sophie Durocher, le DPCP devrait porter ce jugement-là en appel et demander à la Cour d'appel de se prononcer sur un certain nombre de choses. Par exemple, le juge considère que le fait que monsieur n'ait pas de casier judiciaire, ça ne nuit pas à l'intérêt public. Alors, c'est quoi l'intérêt public par rapport aux réseaux sociaux, aux menaces de mort et au harcèlement criminel? Je pense que les Québécois, la société québécoise, est plutôt d'opinion que ce type de comportement-là doit être réprimé hautement. Et je ne pense pas que le fait d'absoudre cet individu-là, qui est déjà coupable de deux infractions criminelles importantes à l'endroit d'une chroniqueuse de Montréal, que ça soit acceptable pour l'ensemble de la population. Donc, la question se pose. Le juge a décidé que ça ne nuisait pas à l'intérêt public. Je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que la Cour d'appel pourrait facilement venir à une conclusion différente. L'autre affaire, c'est que le juge a considéré que monsieur avait exprimé des remords, monsieur Larouche. Mais là, c'est quoi, là? T'sais, il s'en va puis il dit, moi, je regrette ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Mais est-ce que les remords peuvent à ce point avoir de l'importance, même s'ils sont sincères, pour éviter les conséquences des deux crimes qui ont été commis, je ne pense pas aussi. Et l'autre affaire que le juge retient, c'est que Mme Durocher a utilisé, selon lui, son très large auditoire pour dénoncer elle-même le comportement du délinquant. Parce que Sophie Durocher a pris le micro et elle a expliqué à ses auditeurs qu'elle avait été victime d'harcèlement criminel, etc. Ouais. Je comprends, mais le juge est quand même là pour appliquer le code criminel.
Exact.
Le juge est quand même là pour déterminer une peine qui soit acceptable et dans les principes de sentencing, détermination de la peine dans le code criminel, on prévoit l'exemplarité, c'est-à-dire s'assurer que la dissuasion, l'exemplarité, s'assurer que la peine va être suffisamment importante pour dissuader d'autres personnes qui seraient peut-être tentées de menacer de mort et de harceler criminellement des personnalités publiques. Il y a un quatrième point, je pense, qui pourrait être soumis à la Cour d'appel, c'est que le juge dit que les chroniqueurs, les journalistes ne sont pas des personnes vulnérables, en ce sens qu'ils ne sont pas plus vulnérables que l'ensemble de la population. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Ben non.
Parce que quand tu es public, que tu mets ta face sur les poteaux, que ce soit comme conseiller municipal, que ce soit comme député, que ce soit comme chroniqueur, que ce soit comme journaliste, quand tu es public, quand tu as une antenne, quand tu as un rôle public à jouer, tu es vulnérable parce que tu es beaucoup plus susceptible d'être exposé à ce type de harcèlement criminel-là. Et c'est ces gens-là qu'il faut protéger. Si on veut avoir encore des chroniqueurs qui vont nous donner des opinions, des journalistes qui vont rapporter l'actualité, des personnalités qui vont aller publiquement occuper des fonctions électives, députés, conseillers municipaux, bien, ces gens-là sont des personnes vulnérables et le tribunal a l'obligation de rendre des jugements, de prononcer des peines qui vont dissuader les gens qui seraient susceptibles de s'attaquer à ces personnalités publiques-là.
À partir du moment où on fait de...
J'espère qu'il va y avoir appel de ce jugement-là, parce que personnellement, je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose d'important.
Vous parliez des politiciens qui sont susceptibles d'être attaqués que sur les réseaux sociaux ou autres. Même affaire pour les chroniqueurs d'opinion, comme Sophie Durocher. Toutes les gens qui travaillent à donner leur opinion, parfois, c'est des opinions qui sont très tranchées. Puis de l'autre côté, des extrêmes, il y a tout des gens qui peuvent être extrêmement méchants par leurs propos puis utiliser des mots qui dépassent peut-être leur pensée. Là. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Là. Je n'ai jamais écrit à quelqu'un pour dire à quel point je le déteste puis je souhaiterais sa mort. T'sais, pour moi, détester quelqu'un, ça revient à boire du poison dans l'espoir que l'autre meure. C'est un peu weird. Là. Je ne comprends pas pourquoi le juge a pris cette décision-là. Le journaliste Michel Auger, qui s'est fait tirer là, dans l'histoire de la guerre des motards, aujourd'hui, il est décédé. Il est décédé en 2020, M. Auger. Lui aussi était susceptible d'attaque. Là. Je ne comprends pas que le juge dise « Bon, vous savez quoi, c'est pas si pire que ça. C'est une chroniqueuse qui donne son opinion. » Bon, on va laisser ça aller. Est-ce que la jurisprudence, à un moment donné, peut embarquer dans ce type de dossier-là? Si à un moment donné, un juge prend une décision extrêmement sévère, là, bon, pour des menaces de ce type-là, c'est 2 ans moins un jour, donc il va purger sa sentence au provincial, 2 ans moins un jour. Est-ce qu'un jour ça va arriver puis les autres juges vont se baser sur cette décision-là? Ça va-tu prendre un juge qui est un peu extrémiste? Oui, c'est ça.
La jurisprudence, Yannick, c'est l'ensemble des jugements qui sont prononcés par les cours de justice à partir de la plus haute jusqu'à la plus basse. Alors, quand c'est un jugement de la Cour suprême, évidemment, les tribunaux inférieurs sont moralement liés par ce jugement-là. Ils sont censés suivre la tendance imposée par les tribunaux supérieurs. Et la jurisprudence, c'est le corpus jurisprudentiel, c'est l'ensemble des jugements, la tendance. Et c'est sûr que le jugement rendu dans Sophie Durocher va être utilisé dans d'autres cas de harcèlement criminel et dans d'autres cas de menaces de mort. C'est certain, parce que c'est un jugement qui a connu une large publicité.
Ouais.
On en parle encore aujourd'hui, même si ça a été rendu jeudi dernier. Et c'est certain que ça va être utilisé. C'est pour ça que le directeur des poursuites criminelles et pénales doit, et je l'implore de le faire et de l'annoncer au plus vite, qu'il va porter ce jugement-là en appel. Je suis surpris que le DPCP n'ait pas demandé une peine de prison dans ce genre de cas-là, compte tenu des deux infractions dont on parle, qui sont très sévères, harcèlement criminel, menace de mort. Et c'est vrai que le Code criminel ne prévoit pas de peine minimale, mais le DPCP, qui portent des accusations au nom de l'intérêt public, l'intérêt public, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, doit se préoccuper de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et des menaces qui sont proférées. Et là, il a été condamné, ce monsieur-là, au criminel pour les deux infractions. C'est au niveau de la peine qu'on commence à jouer là-dedans en disant bien, il avait perdu sa job, il a fait ça sur le coup de l'impulsivité, il n'y avait pas d'antécédent, je comprends, mais contrôle-toi, bonhomme. Là, j'ai fessé ma femme parce que j'ai pété ma coche ce soir-là, puis j'ai perdu ma job, je suis frustré. Ben là, tu sais quoi, là, c'est pas de la violence conjugale, ça? C'est quoi cette affaire-là? Là? À un moment donné, là, il y a des défenses qui permettent d'être libéré ou d'être acquitté dans des cas où on n'a pas voulu commettre le crime ou dans les cas où on est non responsable criminellement du geste qu'on a posé. Ce n'est pas le cas ici. Il a été condamné, c'est réglé. On est rendu au stade de la peine, mais pas de casier judiciaire pour cet individu-là. Moi, j'en perds mon latin. Et je pense qu'il y a des mesures à prendre. Il y a des tribunaux supérieurs. La Cour d'appel doit être saisie de cette affaire-là. Et comme dans certains autres cas, je souhaite que ça se fasse. Moi, je ne peux pas aller en appel de cette cause-là. Toi, tu ne peux pas aller en appel de cette cause-là, mais le directeur des poursuites criminelles peut le faire et je pense que c'est sa responsabilité d'obtenir minimalement le si peu qu'il avait requis devant le juge, qui était d'avoir 150 heures de travaux communautaires puis une sentence suspendue.
Ouais.
Au moins, il y aurait un dossier criminel.
Est-ce que, il va peut-être y avoir un changement de parti là, au fédéral? Bon, là, de plus en plus, Mark Carney semble reprendre du poil de la bête avec le Parti libéral du Canada, mais techniquement, quand on regardait les derniers sondages dans les dernières semaines, c'était Pierre Poilievre qui était en avance avec le Parti conservateur. On en a souvent parlé, vous et moi. Le Parti conservateur a toujours été un peu plus « tough on crime », puis les libéraux ont toujours été un peu « soft on crime ». Est-ce que s'il y a un changement de gouvernement au fédéral, ça a un impact direct sur les décisions des juges?
Bien, il faut modifier le code criminel. Et j'ai un message envoyé à M. Poilievre. Il y a beaucoup de slogans qui ont été lancés au cours de la dernière année et demie où il a dominé dans les sondages. Il est encore dominant dans les sondages, incidemment, peut-être un petit peu moins avec l'arrivée de M. Carney, mais il est encore dominant dans les sondages. Alors, M. Poilievre a comme slogan « Stop the crime », c'est-à-dire « Moi, j'ai l'intention comme gouvernement de m'attaquer à la taxe carbone, j'ai l'intention de fixer, donc de réparer le budget, les finances publiques au Canada, stop the crime », mais on a beaucoup moins d'éléments de programme sur ce que représente arrêter les crimes. Alors, je pense qu'il pourrait profiter de l'actualité ambiante, dans le cas de Mme Durocher notamment, pour dire, moi, si je suis élu premier ministre du Canada, je m'engage à modifier le code criminel pour faire en sorte que dans les cas d'harcèlement criminel et de menace de mort, il y ait une peine minimale, que le juge ne puisse pas aller en deçà de ce qui est considéré acceptable par la société canadienne, d'imposer dans les cas de menace de mort, par exemple, une peine minimale de 2 mois de prison ou de 4 mois de prison. Il n'y a personne qui va être contre ça, là.
Exact.
Alors, il faudrait qu'il y ait des peines minimales pour toute forme d'intimidation, de harcèlement criminel sur Internet, que ce soit non seulement criminalisé, ce qui est déjà le cas, mais que les juges ne puissent pas aller en deçà d'un certain minimum. Et ça, ça peut se faire. M. Harper l'avait fait dans le temps, en 2011, avec la loi C-10. Je souhaite que M. Poilievre précise un peu sa pensée, à savoir en quoi il va réussir à stopper le crime, puis de quelle manière il va s'attaquer au fléau de la violence conjugale, au fléau des messages criminels sur Internet. Qu'est-ce qu'il entend faire par rapport à ça? En imposant des peines minimales qui correspondraient à une forme de répudiation de la société canadienne par rapport à ce type de comportement-là. Les gens sont écœurés de voir des gens qui menacent, qui envoient des messages haineux sur Internet. C'est devenu trop facile. Et quand on a un cas clair, comme celui de M. Larouche qui s'en prend à Sophie Durocher, il devrait y avoir une peine minimale, au moins qu'il s'engage à le faire, profiter de l'actualité pour dire « voici moi ce que j'ai l'intention de faire » parce qu'on attend des précisions de la part de M. Poilievre, on a hâte de connaître un peu plus ses orientations au niveau de la justice criminelle.
Parce que Poilievre est assez tranquille ces temps-ci, puis j'ai l'impression que ça se ressent dans les sondages. J'ai vu un article de la presse que je trouvais intéressant à discuter avec vous. Ça parlait d'un Québécois qui était supposé se ramasser en prison. Là, il était reconnu coupable d'agression sexuelle sur des mineurs. Il était reconnu coupable il y a de ça quelques semaines. Son nom, c'est Gaétan Morin, 72 ans. Lui, il a commis de multiples crimes sexuels sur des jeunes adolescents durant 30 ans, Maître Bellemare, et c'est un gars qui était malade. Il a demandé l'aide médicale à mourir, et juste avant d'avoir sa fameuse peine de pénitencier, il a obtenu l'aide médicale à mourir, Maître Bellemare. Je trouve ça un peu hallucinant, là. Je comprends qu'il faut être des êtres humains et tout ça, mais au minimum, il aurait dû recevoir sa sentence, Maître Bellemare.
Oui, c'est ça. Mais c'est devenu peut-être une espèce de mode. Là, on dit que les détenus de prison fédérale sont de plus en plus nombreux à demander l'aide médicale à mourir depuis 5 ans. Mais 3/4 d'entre eux ne la reçoivent pas, mais il y a quand même 1/4 qui la reçoivent. Alors, c'est sûr que moi, si je suis victime d'une personne qui m'a agressé sexuellement et qui est condamnée à 6 ans de prison, 6 ans de pénitencier, puis qui obtient l'aide médicale à mourir, puis qui va disparaître de la terre pendant 3 mois, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me dire, bien, au moins, on n'aura plus d'impact? Est-ce que je vais être frustré parce qu'il ne fera pas ses 6 ans de pénitencier? Ça dépend. Il y a des gens qui le voient de différents œils, mais moi, je suis porté à penser qu'on devrait être assez sévère dans l'octroi de l'aide médicale à mourir pour que la peine soit réellement purgée, parce que la peine, c'est la conséquence d'un acte criminel, et puis l'échappatoire par l'aide médicale à mourir ou par le suicide, ça fait en sorte que la personne s'en sort finalement sans avoir à purger sa peine. Mais en même temps, la personne disparaît, donc ne constituera pas un fardeau financier pour les Canadiens. On sait qu'un détenu en pénitencier fédéral coûte 330 $ par jour. Dans une prison provinciale, il coûte 220 $ par jour. Alors, c'est peut-être une couple de 100 000 de moins à payer pour les Québécois et les Canadiens.
Là-dessus, Maître Bellemare, je vous suis.
C'est un beau débat, mais moi, je pense qu'on devrait être extrêmement sévère pour éviter justement que ça devienne un échappatoire pour ne pas avoir à purger sa peine.
Bien, je pense surtout aux victimes dans ce dossier-là. T'sais, moi, je suis un peu extrême des fois dans quand j'ai des émotions. Puis je lisais les commentaires des victimes. T'sais, moi, j'aurais été avec le juge. J'aurais été sur le lit d'hôpital de l'individu, puis le juge aurait dû lui donner sa sentence là, avec les victimes qui sont autour, c'est-à-dire, voici le mal que tu as fait à ces gens-là, voici la peine que je te donne, maintenant, pars en enfer. Salut, bonne journée. Tu sais, je suis un peu extrême, parce que les victimes là-dedans, ils se disent, attends un peu, là, ce gars-là n'aura jamais passé une journée en prison, il n'aura jamais souffert comme nous, on a souffert. Je rappelle que cet homme-là, de 71 ans, Gaétan Morin, a violé des gens pendant 30 ans, Maître Bellemare. Donc, je comprends la souffrance des victimes qui étaient là en disant, attendez un peu, c'était au palais de justice de Montmagny, ça se passait dans le secteur dans la grande région de Québec. Cet homme-là, il s'en est sauvé, là.
Oui, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr. Mais en même temps, écoute, Yannick, il y a des règles pour l'aide médicale à mourir. S'il a obtenu l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'il n'est pas en forme, là.
Entièrement d'accord.
Il a un cancer grade 4, il y a un problème majeur. Il ne peut pas juste invoquer « je suis dépressif, puis je suis anxieux, puis je ne dors plus ». Il faut qu'il y ait quand même une pathologie médicale sérieuse qui est susceptible d'entraîner la mort à court ou à moyen terme.
Je vais être assez simpliste dans mes propos, ouais. Maître Bellemare. Ce n'est pas un 30 minutes de lecture d'un juge, d'un jugement qui va le tuer. Là. Il était déjà sur son lit de mort. Donc, de l'amener au palais de justice pour qu'il puisse à faire face à ses victimes qu'il a fait, ça aurait été la moindre des choses. Je trouve ça cheap. Cet homme-là aurait été cheap jusqu'à la fin de ses jours. Puis la justice a été très gracieuse à son égard, alors que cet homme-là ne méritait pas ça. Puis j'ai une pensée pour les victimes d'agression sexuelle, Maître Bellemare. Ça, c'est extrêmement frustrant. Mais je comprends ce que vous dites, là. Que vous soyez un détenu ou encore une personne qui n'a jamais fait de mal à personne, si les paramètres font que vous pouvez demander l'aide médicale à mourir, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Mais quand on a fait du mal à des gens, Maître Bellemare, il faut au minimum que justice soit rendue. Je suis trop sévère, Maître Bellemare?
Non, pas du tout. T'es pas assez sévère. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait avoir une justice tough on crime le plus possible. Puis je trouve que on est trop mou, on est trop généreux, on est trop... tu sais, les peines sont pas assez sévères en général. Les libérations conditionnelles, c'est devenu une vraie joke. Tu sais, la libération d'office, le système carcéral, les permissions de sortir. En tout cas, écoute, moi, je défends les victimes d'actes criminels depuis 46 ans. Là, je les vois, ils rentrent en petits morceaux dans mon bureau, puis ils ont de la misère à se faire payer des traitements psychologiques par IVAC. Puis ils me racontent tout le temps la même affaire. Mon agresseur se promène, je l'ai vu à la pharmacie la semaine passée. Il reste dans le même bloc que moi, il reste au rez-de-chaussée, je reste au deuxième. Puis il a fait 20 mois plutôt que 42 mois, tu sais, comme Guy Cloutier, là, tu sais, la semaine passée, on a parlé de Nathalie Simard. Je pense que c'était en 2004 qu'elle avait fait sa dénonciation. Il y a 20 ans ou 20 ans qu'elle avait dénoncé Guy Cloutier, puis il a été condamné à 42 mois, il en a fait 20 ou 22, là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est quoi cette justice-là, là? Il faut être plus sévère et faut compter sur des changements à venir au niveau du code criminel pour qu'on puisse serrer la vis si on veut véritablement donner au système judiciaire toute la crédibilité qu'il mérite.
Du temps où vous étiez ministre, Maître Bellemare, c'était comment la première fois quand vous êtes fait dire l'honorable Maître Bellemare?
Bien, c'est sûr que l'honorable,